Bonjour à tous, bienvenue dans la Ligue des joueurs ordinaires, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes pas dans nos locaux habituels rue de Championnet, nous sommes sous un beau soleil de Cannes, enfin beau soleil ça est vite dit puisqu'il pleut dehors, donc nous sommes à Cannes pour le FIGE, le Festival International du Jeu de Cannes, l'un des plus gros festivals, le plus gros salon français hein, si on peut le dire aujourd'hui.
Francophone,
sur le jeu de plateau, le jeu de rôle, même du jeu vidéo, donc même si c'est pas le plus gros salon jeu vidéo, faut pas déconner, mais voilà, donc nous sommes réunis. Aujourd'hui, à côté de moi, j'ai Ariane Mello. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons à côté de lui, qui s'occupe encore de l'ingé son et de la vidéo cette fois aussi, Kétrus. Bonsoir.
Salut.
Bonjour Kétrus.
Tout le monde, salut Zef.
Ça va?
Ça va.
À ses côtés, on a toujours Pro avec cette belle veste et son petit badge. On a Kétrus. On a Wasfun.
Salut Zef.
Et à côté, pareil, des jumeaux, l'un qui a plus de cheveux que l'autre et plus de barbe. Nous avons aussi Gomelon qui est présent.
Mais le talent ne compte pas.
Le talent n'a pas de cheveux. Et Flouette, qui n'est pas là tout de suite, mais qui va nous rejoindre au fur et à mesure, parce que, comme je l'ai dit, émission un petit peu spéciale, nous allons recevoir des invités aujourd'hui qui vont venir nous parler de leurs récompenses, de leurs jeux, de ce genre de choses. Mais en attendant qu'ils arrivent, on va faire un petit tour de table entre nous. Donc moi, je suis arrivé hier un peu tard dans la soirée, mais vous êtes là depuis jeudi. Vous avez assisté à la remise des prix donc des différents As d'Or, et vous avez aussi assisté, vous avez pu profiter un petit peu du festival, et du salon, et tester quelques jeux. Rémelo, qu'est-ce que tu peux nous en dire, déjà, de la récompense de la remise des prix?
Moment assez impressionnant, dans la grande salle, devant tout le monde, tous les éditeurs présents, la salle comble, et la remise des prix, ça fait quelque chose.
Ouais, c'est pas anodin quand même, hein. C'est la première fois qu'on assiste à ça, parce que l'année dernière, on n'y était pas, enfin, la Ligue n'existait pas encore, même si certains étaient peut-être déjà présents, mais c'est vrai que ça doit donner quelque chose d'impressionnant, Waz.
Ouais, moi je vais rebondir sur cette grande salle dans laquelle on a pu faire un timeline version géante. L'auteur, l'illustrateur du jeu, Monsieur Fall, et on a fait un timeline géant avec une version spéciale pour les films qui ont marqué l'histoire de Cannes. On a passé un super bon moment ce vendredi soir.
Et on a commencé par monter les marches quand même.
Ah ça c'est quand même la classe. Est-ce qu'il y avait des photographes, est-ce qu'il y avait Brad Pitt et tout ça ou pas?
Kétrus.
Il y avait Kétrus, ah c'est bien. Et, tiens, Gomelon reprend la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de la remise des prix et qu'est-ce que t'as commencé à tester dans ce festival de Cannes?
Bon, la remise des prix, oui, c'était un beau moment. En plus, c'était vrai que c'était une animation bien foutue. La remise est assez courte. Bien, les gens sont émus. Hein. Les professionnels qui sont nominés sont émus. Donc, du coup, effectivement, ça je pense, un impact émotionnel. Et sinon, effectivement, on est quand même venu aussi pour faire beaucoup de tests. Hein. Enfin, quand on fait des tests, c'est pas des tests pour dire aux auteurs ce qu'il faut améliorer, hein. C'est un autre terme. Et encore ça, on fait pour les prototypes, au niveau du off. Mais là, nous, on a essayé des jeux, soit en avant-première, soit en nouveauté. Et dans les nouveautés, enfin dans les avant-premières, moi j'ai...
Donc avant-première proto, hein, pur et dur.
Avant-première proto, enfin là, franchement, vu la qualité du proto...
C'est quasi du final,
sachant qu'il ne sortira qu'en 2007, mais on a eu
en
2017, pardon, on aura le grand plaisir. En tout cas, nous, on a pu tester Dice Forge, le prochain jeu de chez Libellude, qui est de Régis Bonassé. Et là, moi, je vous dis tout de suite, c'est déjà un futur nominé As d'Or.
D'accord, vas-y, explique-nous en deux phrases le concept.
En deux phrases, c'est un dice building, c'est-à-dire que c'est pas, alors, ce qu'on appelle dice building d'habitude, ça n'a rien à voir. Là, c'est on construit son dé. C'est-à-dire qu'on a un dé au départ, on a deux dés, et on va changer les faces des dés. On va essayer d'acheter des améliorations pour améliorer ces dés, etc.
On fait du deck building sur le dé lui-même. C'est
totalement.
Plus de main deck building.
Tout à fait.
Ouais, si tu veux rebondir.
Ouais, on pousse le concept encore un peu plus loin. On crée des pools de dés et on crée les faces des dés, en fait.
Ouais, ça, c'est vraiment pousser le concept au maximum. Qu'est-ce que vous avez testé d'autre? Vas-y, Yarimelo, reprends le micro. Qu'est-ce que vous avez testé? Ah, vas-y, tu as le droit de répondre à la question, c'est pas parce que notre intervenante arrive que tu dois te couper. Hein.
J'ai testé Mythic Battle, le prochain jeu de coproduction monolithique. C'est un jeu de figurines mythiques avec, on joue des dieux, Zeus, Athéna.
Ah oui, c'est le jeu que tu portes, ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, donc ce que m'a expliqué, c'est un jeu d'escarmouche finalement sur
un
plateau de jeu.
C'est un jeu d'escarmouche mélangé avec un petit peu de jeu de draft. On simplifie au maximum les règles de jeu de combat de figurines. Et on donne avec des figurines qui sont merveilleuses. Le prochain gros pledge qui va arriver, le prochain Kickstarter qui va arriver, une fois que Conan sera livré.
D'accord, donc on est sur un Conan-like, mais en version dieu grec. Donc, on reçoit notre première intervenante, qui est une intervenante. Donc, bonjour Léa Moinet.
Bonjour.
Tu es chez Libellude aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement. Okay. Qu'est-ce que tu fais là-bas et tout ça.
Donc, moi, ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis chez Libellude et je suis la chargée de communication. Donc, ça veut dire que je m'occupe de rédiger toutes les news, faire du rédactionnel, les relations avec la presse, nous occuper des réseaux sociaux. Voilà.
D'accord, ok. Donc, un gros boulot de fond et un gros boulot de rédactionnel.
Il y a un peu de travail.
Donc, tu es là pour représenter donc, Mysterium qui a eu l'as d'or du jeu de l'année, donc au Fige. Donc, Mysterium, nous, on avait déjà parlé dans une émission en fin d'année dernière. C'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié, sur lequel on joue beaucoup encore aujourd'hui. Donc, on rappelle là rapidement l'auteur, donc c'est Oleg
Sidorenko et
tu fais mieux que moi, vas-y.
Et Alexander Nevsky.
Bravo, merci. Donc rapidement, est-ce que tu peux me présenter en deux phrases le concept de Mysterium ?
Mysterium, c'est un jeu d'enquête coopératif et asymétrique. Donc ça veut dire que tout le monde va jouer ensemble, mais qu'il va y avoir un joueur qui va avoir un rôle différent. Et c'est un jeu qui est axé autour de l'association d'idées, de l'interprétation d'images et de faire passer la meilleure manière son message en fait, donc de communication.
D'accord. Alors oui, Oaz,
c'est tellement plus clair que quand nous on le présente.
C'est dingue, hein.
C'est un métier.
On devrait prendre des cours. Première question sur le jeu en lui-même. Comment est venue l'idée en fait chez Libellude d'aller chercher un jeu en Ukraine aussi loin ?
En fait, c'est plutôt le jeu qui est venu à nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les auteurs ukrainiens connaissaient Dixit, avaient beaucoup apprécié le jeu et y jouaient. Et donc, c'est de là qu'en fait est venue l'idée de faire Mysterium. Et comme ils ont vu que beaucoup de gens appréciaient leur jeu, qu'il y avait un vrai engouement et qu'ils voulaient le diffuser plus largement, en fait, ils sont tout naturellement tournés vers nous, puisqu'on avait déjà fait Dixit.
Normal,
en fait.
Oui, vous avez déjà
le. Donc, c'est comme ça que le jeu est arrivé chez nous. Et donc, on l'a essayé. Et c'est vrai qu'on a eu un vrai coup de cœur pour le jeu parce que. Il y avait déjà toutes ces mécaniques qu'on appréciait dans Dixit, mais on sentait qu'il y avait un vrai plus parce que ça renouvelait le jeu d'enquête et en plus c'était des mécaniques qu'on aimait quoi. Donc on a vraiment eu un gros coup de cœur et on s'est dit que c'est vrai que c'était bien que ce soit nous qui le faisions quoi.
Ouais, pour le coup c'est tombé au bon moment.
Voilà.
C'est pour ça que du coup que les illustrations ont changé depuis le jeu original j'imagine parce que c'est clairement les mêmes illustrations qu'on trouve dans Dixit. Pour revenir sur l'As d'Or, donc le jeu l'année dernière était en présentation à Cannes, je m'en souviens parce que le stand était blindé, on n'arrivait même pas à circuler correctement. Aujourd'hui, lorsque vous avez été nominé, avant la décision finale, comment vous ressentiez la chose ? Est-ce que c'était un peu stress ? Est-ce que vous la sentiez bien ? Est-ce que...
Bah, y a toujours un peu de stress parce qu'on sait pas en fait.
D'accord, mais vous sentiez bien le truc venir en face de Mafia di Cuba et en face de Kipper Gagne, est-ce qu'il y avait quand même une différence ?
En fait, il n'y avait pas d'évidence pour nous parce que on savait pas ce vers quoi le jury voulait orienter son choix en fait. C'était vraiment trois opportunités de mettre des jeux en valeur pour différentes raisons et c'était vraiment trois vrais choix en fait qui se présentaient à eux et donc il y avait pas d'évidence pour nous en fait.
D'accord.
Il y avait une sélection hyper hétéroclite et tant mieux d'ailleurs, mais c'était hyper riche et c'est vrai qu'il y a une option qui a été choisie cette année, ce sera peut-être différent les autres années, mais moi je trouve ça très bien finalement qu'il y ait cette telle diversité dans les nominations.
La récompense vient, moi j'imagine que c'est l'explosion de joie sur le stand.
On était content.
Ouais, j'imagine, ça a été la Noumba jusqu'à très tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que la récompense, donc l'As d'Or, on sait que c'est comme devenu une grosse récompense sur le jeu de plateau, au moins en France. Est-ce que ça va, à ton avis, avoir un impact commercial important sur le jeu, sachant qu'aujourd'hui c'est très bien vendu, il est très connu maintenant, est-ce que ça va peut-être donner un second souffle à tout ça ?
En fait, ça nous ouvre des portes.
D'accord.
C'est-à-dire que là, le jeu, effectivement, il a connu un beau succès, mais c'est un succès aussi de connaisseurs. C'est-à-dire que ça fonctionne par le bouche à oreille, mais c'est déjà des gens qui sont un peu du milieu du jeu qui
le
connaissent.
Ouais, c'est des gros gamers, en final.
Et là, le fait d'avoir un As d'Or, le fait d'avoir un sigle, un logo bien identifiable, en fait, ça nous ouvre les portes du grand public. Parce que, quand quelqu'un se rend dans une boutique, il ne sait pas quoi acheter, un logo, un sigle,
oui, ça
va l'orienter. Voilà. Et il va se dire, ça a été approuvé par des gens qui s'y connaissent, alors c'est que ça doit être bien. Et en fait, ça nous ouvre vraiment cette proximité en fait, avec un grand public qui est peut-être moins connaisseur, qui donc nous permet de toucher un public différent.
Oui, Gomelon.
Et vis-à-vis de la grande distribution, en tout cas, ou les grands distributeurs de jeux, est-ce que justement, eux, ils ont une tendance maintenant à prendre l'As d'Or comme une référence, comme label ?
C'est sûr que c'est un argument, en fait. Ça pèse aussi, parce que pour eux, c'est justement, comme je viens de le dire, c'est une manière de mettre le jeu en avant aussi dans leur rayonnage. Voilà, de dire ce jeu-là, il a eu un prix, de le mettre en avant. Donc effectivement, c'est un argument non négligeable, en fait.
D'accord.
Vous aviez eu Dixit qui a trusté les prix l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, si je me souviens bien, dont le Spiel Jahres. Est-ce qu'il y a eu un engouement après?
Ça, comme je disais, ça ouvre des portes, parce qu'aujourd'hui, Dixit n'est plus seulement un magasin spécialisé, il est aussi dans les Fnac, dans ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, donc dans les Toys R Us, les ouais, magasins qui distribuent habituellement des Monopoly ou des choses comme ça.
Oh l'horreur!
Donc voilà, en fait, c'est exactement ça, ça ouvre des portes en fait.
Et vous savez, l'espoir que Mysterium pourrait rentrer dans ces gammes?
C'est un petit peu tôt dans la vie de ce jeu, parce que là, il est sorti que le 1er octobre 2015, donc c'était il n'y a pas si longtemps.
Oui, finalement, oui.
Et en fait, c'est aussi un processus qui se fait dans le temps, en fait. C'est une fois que le jeu commence à avoir une belle maturité, le prix est un argument supplémentaire aussi, mais voilà, une fois qu'on voit que le jeu a de base solide dans les hobby stores, ça peut ouvrir des portes.
Alors, on sait qu'il y a une extension qui est prévue, là, qui sort vraiment bientôt, je crois que c'est en avril, hein, c'est ça?
En juin.
Qui m'a dit avril? C'est Gomelon qui m'a dit ça. Non,
c'est Olivier qui m'a dit.
Il faut gérer le succès. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter, sans forcément spoiler tout le jeu derrière qu'il va avoir en plus, mais qu'est-ce que va représenter l'extension? Qu'est-ce qu'elle va amener en plus en termes de mécanique?
Alors, elle n'apporte pas de nouvelles mécaniques.
Ça, c'est
donc
parfait,
ça sera très rapide. Non, en fait, c'est surtout une extension qui est basée sur la rejouabilité, puisqu'on apporte des nouvelles cartes vision 42 pour le fantôme, pour communiquer avec différents symboles, renouveler un peu ce côté-là. Et aussi, 6 nouveaux personnages, 6 nouveaux lieux et 6 nouveaux objets pour renouveler le pool de cartes que le fantôme doit faire deviner, en fait.
D'accord, Gomelon,
oui. Oui, justement, au niveau des illustrations des cartes rêves, parce que les cartes rêves sont la seule chose que vous avez conservée, en dehors des règles évidemment, dans le matériel du jeu d'origine. Donc là, est-ce que ces nouvelles cartes viennent d'Ukraine ou est-ce que vous êtes passé par...
Donc ces nouvelles cartes sont illustrées par Igor Burlakov, qui était également l'illustrateur des cartes vision du jeu de base.
D'accord. Est-ce que finalement, donc du coup, pour revenir rapidement sur l'Asdor, est-ce que le fait... Bon, je pense que du coup la réponse va être non par rapport à ton argument d'avant, mais est-ce que ça va amener peut-être d'autres extensions? Est-ce que les auteurs se sont dit c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais s'il y a eu une récompense supplémentaire, ça va peut-être les motiver pour faire quelque chose, ou est-ce que vous allez un petit peu les pousser pour dire il y a encore un truc à faire derrière?
Les auteurs sont très motivés de toute façon, parce qu'ils sont vraiment ébahis par le succès qu'a le jeu en fait.
D'accord.
Et déjà que même sans ça ils étaient très motivés autour de leur jeu, ça les renforce en fait dans leur idée, ils ont vraiment envie de faire plein de choses autour du jeu, ils ont plein d'idées, c'est des gens vraiment très actifs et très enthousiastes.
Ouais.
Donc pour l'instant, on se concentre sur cette sortie d'extension, on va voir son accueil, ça plaît aux gens. Et on a des choses dans les tuyaux, mais on attend aussi. On se laisse
Il y a des choses dans les tuyaux, c'est-à-dire j'aime beaucoup quand on dit ça. Oise.
Ouais, moi, je veux dire, tu parles des auteurs, on voit ça un petit peu par notre petite lorgnette franco-française. Comment c'est vu là-haut? Comment c'est perçu et comment le vivent-ils?
Les auteurs?
Oui.
En fait, ils nous avaient envoyé un petit mot si jamais ils gagnaient le prix. Et c'était super émouvant à lire, en fait, même avant qu'on ait la cérémonie, parce que pour eux, ça a vraiment un impact incroyable. Parce que ça les touche vraiment au plus profond de leurs sentiments. Il y a une véritable reconnaissance super forte. Ils étaient vraiment extrêmement reconnaissants, en fait, déjà d'être nominés. C'était fantastique pour eux. Et ils vivent ça d'un peu loin, mais en même temps, ils ont des émotions très fortes par rapport à ça. Ils étaient vraiment super heureux.
Et tu le dis, ils vivent ça d'un peu loin parce qu'ils vivent ça par rapport à l'impact que ça a en France. Est-ce qu'il y a une diffusion là-haut directement en Ukraine? Et comment se fait-elle?
En fait, eux, ils ont édité leur jeu avant de nous le proposer en Ukraine. Donc, du coup, ils diffusent ce jeu-là, en fait, là-bas.
D'accord, il n'y a pas eu de réédition mise à jour, quoi.
Non.
Pour le marché européen, le marché américain, etc., est-ce qu'il est ouvert via l'édition francophone ou est-ce que...
Alors, en fait, on distribue dans la majorité des pays européens, sauf quelques exceptions. Et on distribue également aux États-Unis. Enfin, c'est Asmodée qui distribue. Mais
aujourd'hui, aujourd'hui le jeu est trouvable aux États-Unis en l'état.
Version Libellude.
Oui, la version Libellude.
Et le succès qu'on connaît en France, en France, en Belgique, dans le secteur francophone, on va dire, est-ce qu'il se développe aussi? Est-ce qu'il y a le même succès en Allemagne et aux États-Unis?
En France, le jeu a été épuisé dès la première semaine. Et en fait, c'est un phénomène qu'on a constaté dans tous les autres marchés. Donc,
donc il s'est vraiment très bien vendu aujourd'hui. Pour revenir sur l'extension rapidement, vous avez déjà un ordre de tarif ou quelque chose, ou ce genre de choses?
Oui, ce sera 20 euros. 20€.
20€, ouais, ça va. Ça va, c'est vraiment correct pour une extension. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre invité ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, Waz ?
Moi, j'allais juste revenir sur ce portage, en fait. Combien de temps, finalement, ça vous a pris entre le moment où on t'a contacté et qu'est-ce qui s'est passé derrière, en fait ? Raconte un petit peu.
Ça a pris pas mal de temps, parce qu'effectivement, on avait le jeu, mais on savait qu'on voulait y apporter notre petite touche. Et le jeu était déjà très fluide, mais donc du coup ça a pris du temps de ne pas casser cette fluidité tout en arrivant à y ajouter les éléments qu'on voulait y ajouter. Donc en fait, entre le développement, la sortie, tout ça, je pense que je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais on doit être à un petit peu plus de 2 ans.
Ah oui, quand même.
Ouais, ça, ouais, non, c'est. Voilà, il y a aussi toute la réflexion autour de ce changement, enfin voilà, de ces adaptations mécaniques et aussi de tout le changement graphique en fait. Donc il y a eu vraiment du travail un peu à tous les niveaux et ça prend du temps en fait. Mais voilà, c'est travail.
Quel est le plus gros changement qu'il y a eu entre la version originale et la version qui est sortie
Dans quel domaine graphique ou...
N'importe. Qu'est-ce qui a été finalement le plus marquant à part le graphique, ça reste.
Justement, j'allais dire le graphique parce que. On a tout changé sauf les cartes vision en fait.
Ah oui, d'accord. Bon, les gars, votre jeu est bien, mais on change tout.
La version ukrainienne était beaucoup plus austère et beaucoup plus simple. Les images et une composition beaucoup plus simple.
Ouais,
c'est très, très Cluedo.
On reste clairement sur le Cluedo, mais après, c'est peut-être de là qu'est devenue l'inspiration originale du truc. Donc pourquoi pas aussi le visuel qui va avec. Ok, on arrive à peu près dans le timing, c'est plutôt bien, on est bon les gars, hein, c'est pas mal,
hein, pas
ça
mal.
Coupé au montage, on se... En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, pour ton temps, pour ta disponibilité.
Avec plaisir.
Est-ce que t'as eu le temps de faire un petit peu le tour du... j'imagine que non, la question qui tue, t'as eu le temps ? Non,
j'ai
maintenant je bosse.
J'ai essayé aucun jeu.
L'horreur. Oui, mais même pas au off, hein. Vous êtes pas au off le soir ?
Bah si, on est au off le soir, mais on vous présente.
Ah, on passera vous voir du coup.
Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Bon courage pour la fin du festival qui doit être vraiment crevant
beaucoup.
Pour le coup. Et puis voilà, merci à vous. On a le plaisir de recevoir un nouvel intervenant, un nouvel invité, donc qui s'appelle Faisal. Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très 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 bien.
D'accord, bah c'est bien, c'est cool déjà. C'est une bonne chose. Même s'il fait pas beau, tu vas bien.
Ouais, il fait beau.
Il fait beau dans ton cœur.
Voilà, exactement.
Donc toi, tu es le représentant philosophie à France. Je te laisse te présenter en deux mots.
Ouais, rapidement. Donc moi, Faisal, je suis représentant philosophe à France. Donc je m'occupe de pour Philosophia, qui est une boîte québécoise à l'origine, pour tout ce qui est événementiel, communication, en gros sur la francophonie, donc c'est-à-dire que la France, la Belgique et la Suisse.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es là pour parler de Pandemic Legacy, donc saison 1. Qui a reçu donc jeudi l'As d'or dans la catégorie expert face à Seven Wonders Duel et Time Stories. Rapidement, alors ça va être dur, un gros travail que je vais te demander là. Est-ce que tu peux nous représenter le jeu, son origine et la gamme Pandemic ?
Alors, à l'origine, Pandemic, donc, c'est un jeu de Matty Cook, un auteur américain. L'idée, il avait la grande idée de faire un jeu coopératif, puisque c'est un peu sa marotte, le jeu coopératif à l'origine. Et il s'est lancé dedans en voulant vraiment faire un jeu qui deviendrait un standard. C'est vraiment son idée. Il y a passé beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes. Je crois qu'il y a une vidéo qui traîne sur le web où il explique toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et donc, Pandemic, si Monsieur Instrument est sorti en 2009. Ça a été un succès quasi immédiat, malgré un thème qui est pas très vendeur à l'origine, c'est-à-dire que c'était une boîte avec
une boîte qui était pas belle,
qui était pas qui était un peu pas terrible à l'origine. Si mes souvenirs sont bons, une boîte assez sombre d'ailleurs.
Très sombre, très très peu lisible au niveau de la couverture.
Ouais ouais. Bah, comme quoi l'important c'est pas tellement le flacon, mais c'est l'ivresse.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Black, un point. Donc cette boîte, Pandemic est sortie, ça a été quand même un gros succès. Derrière est sorti plusieurs extensions, puis a été refait une version un peu plus jolie. Avec un peu plus agréable
punchy,
à l'œil, un peu plus punchy.
Très série télé.
Ouais, en fait, le mec était bien. Hein. Les visuels étaient dessus, étaient vraiment bien pour le coup.
Ouais. Bah, l'idée, je pense que l'idée, on va parler du Legacy après, je pense que cette idée de série télé vient vraiment de là. En fait, il y avait cette idée de justement, nous allons sauver le monde comme dans un film, une série télé, des différents virus qui l'envahissent. Donc le jeu est sorti, a été refait, plusieurs extensions ont eu lieu. Il y a la première qui était au seuil de la catastrophe.
Ouais, qui était plutôt bien d'ailleurs.
Ouais, qui amenait un peu de difficulté pour ceux qui n'en avaient pas suffisamment. Ensuite,
tu as amené aussi le joueur traître.
Le joueur traître, ouais, il y a des bien joueurs bien, qui adorent ça.
Le bioterroriste.
Ouais, qui était vraiment le bioterroriste. Super idée,
ouais.
Pour rapidement sur le Legacy, donc c'est une idée à la base de Rob Davio. On voit ça sur le risque en l'occurrence, enfin entre autres. On va se recentrer rapidement sur l'Asdor. Comment on se sent chez Philosophia France quand on reçoit l'Asdor?
Ah bah on se sent bien, non.
Forcément.
Non,
mais...
forcément. Donc, alors l'Asdor, comme on dit, bah, c'est, moi comme je dis tout le temps, on fait pas des jeux pour recevoir des prix. On fait des jeux pour parce que ça nous fait plaisir, qu'on les aime et qu'on a envie de les partager. Mais quand on reçoit un prix, on a beau dire ce qu'on veut, ça fait vraiment plaisir et ça touche énormément.
Ouais.
Et je confirme que Faisal et son équipe l'ont vraisemblablement très modeste, puisque j'ai eu l'occasion de passer hier après-midi sur le stand et il était là, présent, pour encore faire des démonstrations de jeu, comme à l'accoutumée, j'imagine, et pas à droite, à gauche, tout le temps en train de courir, du moins au moment où je l'ai vu. Donc encore super libre et super disponible, quoi.
Bah, en fait, grosso modo, moi, pour... j'ai commencé comme animateur, donc j'ai commencé comme animateur, donc il reste cette fibre de vouloir démontrer les jeux, de rencontrer le public, parce que on a beau dire ce qu'on veut, c'est le public qui a entre guillemets le final cut. Surtout, on peut essayer de faire un super jeu, on peut tout y mettre, si le public l'accueille pas bien, si ça plaît pas au public, si on n'a pas les retours des joueurs, on peut pas avancer.
Ouais, donc c'est un échange entre les deux.
C'est que tu as rencontré par hasard une bonne partie de l'équipe sur un salon, tu étais animateur en Belgique.
Ah.
Avant que tu sois le responsable, juste avant le changement avec Guillaume.
Ah, comme d'accord. Quoi, on suit. Hein.
Ouais.
On te lâche pas, on est là.
Ouais. J'ai un fan club belge maintenant.
Non, on n'est pas le belge. Hein. Sauf sur le Pazzi.
Je suis déçu.
Donc, pour revenir sur, on va parler un peu plus de Pandemic Legacy. Comment est venue l'idée d'intégrer la philosophie, sans jeu de mots, Legacy sur Pandemic? C'est venu de qui à la base et comment est venue l'histoire?
Ça s'est fait au cours d'un briefing. Tout simplement, Matt Leacock avait joué à Risk Legacy. Ouais. Matt Leacock, l'auteur du jeu, je le répète, avait bien aimé. Et il s'est dit, j'aimerais bien faire quelque
chose. Comme
je disais tout à l'heure, il y avait cette idée de présenter le jeu un peu comme une série télé et c'était le format parfait pour le faire.
Ouais, pour le coup, ouais.
Donc voilà, après la rencontre s'est faite entre les deux auteurs et là, ça a été.
Enfant aîné.
Ouais, et puis je pense que quelque part une amitié est née parce qu'ils ne se connaissaient pas trop et visiblement ils se sont entendus comme la roue en foire et ça a été hyper productif.
Ouais,
mais on a l'impression que finalement les mécaniques sont tellement. Finalement, bien imbriqué, et c'est une récompense aujourd'hui qu'on ne peut pas croire que c'est juste le fruit du hasard et d'une opportunité, donc c'est plutôt super chouette.
Ouais, mais ça, en fait, c'est ça qui est dingue. En plus, j'allais rebondir sur ce que tu disais sur le côté amitié entre les deux auteurs. C'est que, en fait, moi, ça m'éclate toujours dans le jeu de plateau, et c'est surtout dans le monde du jeu de plateau, j'ai l'impression que tous les auteurs, dès qu'ils se rencontrent un tout petit peu, qu'ils bossent ensemble, qu'ils ont une idée, ils essayent de la travailler ensemble, boum, t'as l'impression que c'est un festival d'idées, c'est un festival d'amitié. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est super pote dans le monde et je trouve ça assez génial en fait. Pour revenir sur le côté Legacy, on l'a vu sur donc ça existe sur le risque. Enfin, nous on l'a pas encore testé pour le coup. Chez Quaz, là en dispo chez lui, mais on n'a pas encore été invité pour le faire. Bref,
c'est un message caché.
Voilà, le Pandemic Legacy, donc on l'a testé. Je vais parler pour moi. Moi, j'ai juste ultra kiffé, mais à la base, je suis ultra fan de Pandemic. Est-ce que le côté Legacy, donc le côté suivi du truc, est-ce que ça va devenir aujourd'hui, à ton avis, une nouveauté du jeu de plateau? Est-ce que ça va devenir un renouveau? Est-ce qu'on va le voir arriver de plus en plus souvent ou
Alors, je pense que ce côté Legacy, ou en tout cas des choses qui vont y ressembler,
ouais,
vont venir de plus en plus. Tout simplement parce que ce côté expérience ludique,
ouais,
parce que tu l'as joué, t'as une espèce d'expérience assez importante. T'es là à la fin de ton mois, tu fais mais qu'est-ce qui va m'arriver le mois suivant?
Une immersion.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une immersion assez importante.
En fait, il y a un espèce de croisement du jeu de plateau, jeu de rôle. Voilà. Le côté background des personnages qu'on s'invente un tout petit peu, bah, finalement, comme dans le jeu de rôle, qui va pas forcément servir plus dans le jeu de plateau, mais voilà, on a un attachement, et si notre gars meurt à un mauvais moment, bah, on a vraiment une larme de tristesse qui coule le long de la joue.
Ouais, puis tu as ce côté, en tout cas, moi, pour l'avoir joué, tout simplement, à des moments, je me suis dit, bah, ce personnage que j'ai fait évoluer, peut-être que l'autre personnage qui est moins évolué sera peut-être mieux à ce moment de la partie pour ce mois-là, mais non, j'ai envie de jouer le personnage, mon personnage que j'ai fait évoluer, que je joue depuis plusieurs mois.
D'accord. Et à ton avis, est-ce que donc pour toi ça va devenir pas une récurrence, mais on va le voir arriver de plus en plus. Est-ce que tu as des idées de jeux sur lesquels on peut le voir arriver?
Alors,
ou peut-être des pistes, ou peut-être des, je sais pas, un truc que tu...
Alors, placement produit.
Vas-y, t'as le droit, un peu, il n'y a pas de souci.
Plus sérieusement, déjà, en fin d'année, nous, il y a Seafall qui va arriver, qui va être un Legacy.
D'accord.
Tout simplement. Alors,
Gobelon, on connaît.
Alors, est-ce que ça, il s'agit... On a vu que depuis la mi-février, on a une petite vidéo qui est en train de tourner sur le web, sur un pandémie.
Plus dans le micro.
Toulouse. Donc, est-ce que c'est ça ou c'est
un... Non, c'est pas ça. Dans l'ordre, il y a Seafall qui est un jeu fait exclusivement par Rob Devio, qui sera vraiment le premier jeu exclusivement développé tout en Legacy.
Parce d'accord, que Risk donc Legacy, de lui directement.
Voilà, parce que Risk Legacy, il y avait le système Risk, ouais, le jeu Risk, Pandemic Legacy, Pandemic existait déjà. Et là, Seafall, ça sera un jeu basé sur les pirates, la marine, etc., qui sortira cette année, en fin d'année, qui lui est exclusivement développé de tout de A à Z, tout le système de jeu, etc., en Legacy.
D'accord. Et le Cthulhu Pandémie ?
Alors, le Cthulhu Pandémie, lui, devrait arriver à la Gen Con, si tout va bien. Ça ne sera pas un Legacy. Voilà. Ça sera vraiment un jeu à part entière. Voilà.
Sur le même système, les mêmes mécaniques ? Alors, il y a forcément des trucs en plus.
Il y aura de la variation. Sinon, c'est juste refaire les illustrations. Oui, ça ne sert à rien de faire un jeu. Il faut dire que c'est les choses telles qu'elles sont.
Il y en a qui le font.
Non, ouais, bah, je vois pas là.
Nous,
pas
on va.
Nous, franchement, voilà. Non, si c'est juste pour dire, voilà, pandémie Cthulhu, pandémie à la plage, pandémie à la montagne. <c'est>...
Pandémie à la plage. Les bactéries prennent le soleil.
Voilà, c'est. Non, pas du tout. Mais voilà, non, le pandémie Cthulhu aura cette filiation avec pandémie, c'est évident. Sinon, on l'appellerait pas pandémie, le règne de Cthulhu, mais ça sera. Il y aura des choses différentes dedans, bien sûr.
Il y a une date, il y a quelque chose un peu précis ou
est-ce qu'on la rentrée en France.
La rentrée quand moi je rentre de vacances ou
ouais, la rentrée quand je rentre de vacances.
Ah, et ça veut dire que c'est déjà bien avancé.
Ouais,
je dois en avoir une boîte qui traîne.
Non, attends. Oh. Attends, on va couper les micros, on va s'arranger. Non, sérieusement, il y a un truc qui traîne là-bas.
Ouais.
Ok, bon.
Moi, je vais y aller, Zef, tu vas terminer l'émission tout seul.
Ok, écoute, merci, on est pile poil dans les temps. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, d'autres interventions, non?
Bah, nous, on attend la suite de avec impatience.
Saison 2, 2017.
Voilà. Très bonne question. Saison 2, oui.
2017.
Enfin, c'est déjà moins avancé que Toulouse, j'imagine, mais il y a d'autres.
Alors, comment dire? Là, c'est là qu'on coupe le micro, que j'ai pas le droit de dire des choses.
Non.
C'est en cours de développement. On m'a donné un petit pitch parce qu'il faut savoir que c'est développé pour, je peux me permettre, c'est développé comme un peu ce que je disais à la cérémonie de l'As d'Or. C'est un peu le projet Manhattan, c'est-à-dire.
Ah bah oui, j'imagine.
Tout le monde n'a que des bribes d'informations. Moi, j'ai quelques bribes d'informations, mais voilà, j'ai pas tout l'ensemble du projet. Seuls les auteurs et les chefs de projet ont tout ça, ce qui est pas mal parce que ça me permet de découvrir.
De mémoire, il y avait aucune fuite sur la saison.
Non, mais ça fait penser en fait à un tour de magicien. Tu sais, chaque personne connaît juste un truc spécifique.
Voilà, d'une certaine façon, je suis assez content parce que j'ai pu savourer moi-même en travaillant pour Philosophia l'ensemble de la boîte.
Ça, c'est classe.
Mais voilà, s'il y a trop de spoils, comme on dit, qui sort, bah.
Oui, il n'y a plus d'intérêt au final
à jouer. Je pense que beaucoup de gens ont été déçus.
On peut imaginer que pour renouveler l'intérêt et pour susciter l'intérêt de tous les gamers, va y avoir du nouveau, va y avoir quelque chose. Ce ne sera pas effectivement une copie conforme du 1 avec un 2007 dessus.
Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de le faire.
Petite question sur Philosophia France. Est-ce qu'elle a un rôle dans l'édition?
Plus près, Rémalon.
Est-ce qu'elle a un rôle dans les choix d'édition ou elle est juste un partenaire la distribution et l'événementiel?
Alors, moi, à Philosophia France, ce qu'on fait, je m'occupe principalement de tout ce qui est événementiel, communication pour la France. Après, on a un distributeur qui est Asmodée, etc., comme tout le monde, comme beaucoup de monde, apparemment.
Oui.
Non, mais un distributeur comme tout le monde, hein, j'en s'entends. Oui,
c'est tout ce qu'on a entendu autour de cette table.
Eux-mêmes, ils ont plus de mal.
Ouais, voilà. Et donc, après, sur la part de l'édition, bah, on nous demande des choses. Est-ce que ça va? Est-ce que ça plairait? Est-ce qu'on pense que ça peut passer comme produit en France?
D'accord, il y a une demande de feedback quand même.
Il y a une demande de feedback. Est-ce que, voilà, sur l'événementiel, ça peut être fait différemment aux États-Unis, en France? Non, il y a une touche.
Il y a quand même la touche. Ouais,
c'est pas juste un bureau qui est ouvert là en France pour dire qu'il y a juste une boîte aux lettres. Mais vous avez vraiment une intervention.
Oui. Ça fait des meetings sur Skype de plusieurs heures avec le décalage. Les horaires, etc. Oui.
Comment ça, il est 2h du matin chez vous, mais nous on se lève. Ok. Écoute, merci beaucoup. Merci de ta disponibilité. Merci d'avoir répondu aux questions. On se retrouve bien dans. On se donne rendez-vous en off pour le test. Je le sens bien. Et puis bon festival. J'imagine que tu n'as pas eu le temps de tester quoi que ce soit ou de bouger de ton stand.
Quasiment pas. Ouais. Là, c'est rendez-vous sur rendez-vous. C'est le stand. C'est. Voilà.
D'accord. Ok. Bon, c'est vrai. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère.
J'espère aussi. Bientôt. Ciao.
Donc on est toujours à Cannes, au FIJ, au Festival International du Jeu de Cannes. Je vais le dire à chaque fois, et je vais le dire à chaque fois qu'il fait moche. Et c'est dommage parce qu'on est à Cannes et il devrait faire beau, et il fait beau dans le cœur, comme on l'a dit juste avant. On accueille notre troisième intervenant, très spécial, très beau, dans son coin, avec son regard mystérieux bleu. Bonjour, qui es-tu ?
Je suis le maître Renard. Je suis en fait Antoine Davroux, donc je suis éditeur. J'ai créé Superlude, et voilà, donc éditeur chez Superlude. Et Superlude a eu la chance, l'honneur et le grand bonheur, les grandes émotions d'être d'abord nominé à l'Asdor Jeunesse pour mon jeu Maître Renard. Et du coup, il a eu le prix ultime de l'Asdor Jeunesse Enfant Kids.
La classe
internationale.
La classe
américaine. Et voilà, de cette année. Mm-hmm. Donc Maître Renard, c'est un jeu de Frédéric Vuagna et illustré par Catel Ruse. Et c'est un jeu où on va jouer avec des masques de renard qui obstruent totalement la vue. Et donc, on va faire agir un autre sens, qui est le sens du toucher, pour répondre à des missions que nous confie Maître Renard, qui aimerait prendre des vacances, et il cherche un remplaçant. Donc, il va nous confier des missions, et on va devoir aller chaparder des butins dans la ferme à côté de Gribois, où vit Maître Renard. Et on va chaparder des petits objets en bois, qui ont des formes différentes, parfois qui se ressemblent, parfois qui sont très éloignés en termes de forme. Et le premier qui pense avoir accompli la mission proposée le soir, va gagner un certain nombre de points. Et puis ensuite, on va rejouer une nouvelle phase. Il y a des petits animaux qui vont sortir du foin. Il y a des serpents, par exemple, qui vont venir voir ce qui se passe. Il y a des petits renardeaux qui vont venir nous aider. Et puis, si on trouve le marteau de la fermière, on sera immunisé aux attaques des serpents, par exemple. Voilà.
Ok. Superlude, tu veux en parler un peu plus ? Vas-y, je t'en prie.
Superlude, c'est une petite maison d'édition, une jeune maison d'édition. J'ai créé Superlude il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de jeux au catalogue, dont 3 jeux enfants, dont Maître Renard. Et donc c'est une petite structure. Et c'est vrai que c'est particulièrement émouvant de travailler comme ça, comme un forcené pendant 3 ans, et d'avoir cette récompense pour l'un de ces jeux. Et on ne fait pas que du jeu jeunesse. On a aussi des jeux... C'est pour ça qu'à Cannes, on a 2 stands. On a un stand avec nos jeux jeunesse et un stand avec des jeux plus adultes, familiaux, pour joueurs un peu plus expérimentés. Et donc là, le dernier sorti, c'est Lutèce, par exemple, qui est plutôt un jeu de gestion.
Oui, qu'on a testé à jouer avec Oise.
Qui est un peu plus costaud. Mais toujours, la ligne éditoriale de Superlude, au-delà des gammes et des différents niveaux de jeu que je peux éditer, c'est vraiment toujours des univers forts, des graphismes chatoyants, avec des illustrateurs vraiment que j'admire et que j'adore et qui sont vraiment de premier plan. Des univers forts, des graphismes forts, des thèmes forts. Et puis, on essaie de faire aussi des beaux jeux en termes de matériel.
Il y a un partenariat qui vient de se mettre en place avec Origames, si je me souviens bien.
Oui. Alors, en fait, Origames, c'est un packager qui assiste les jeunes éditeurs dans leur premier pas dans le monde du jeu. Donc, ça a été mon cas. C'est-à-dire que j'ai sollicité l'aide d'Origames pour m'orienter vers des bons fabricants, pour m'aider à développer certains jeux, donc à tester des jeux, et aussi à faire un peu de direction artistique. Sur mes jeux.
Donc, tout ce qui est édition ludique, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, ils servent vraiment à aider des jeunes éditeurs et des moins jeunes, puisqu'en fait, Origames a beaucoup travaillé avec Yellow, et travaille toujours beaucoup avec Yellow. Et donc, c'est aussi comme ça que je les ai connus, puisque j'aime beaucoup les jeux qu'édite Yellow. Et donc, voilà, ils aident les jeunes éditeurs qui sont seuls dans leur coin, comme c'était mon cas. En fait, c'est des prestations externalisées. Les gros éditeurs plus installés ont en interne des directeurs artistiques, des chefs de projet, des développeurs, des chargés de com. Et moi, forcément, je n'avais pas ça quand j'ai débuté. Et donc, plutôt que de tout faire tout seul ou de payer 3 salaires que de toute façon, je n'aurais pas pu payer, du coup, j'ai eu recours à cette formidable équipe. Donc, on a travaillé comme ça pendant 3 ans. Et puis on se voyait beaucoup, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours. Enfin, plutôt l'inverse, tous les trois jours, tous les deux jours. Tous les jours. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, on avait des visions communes sur ce qu'on voulait faire, sur la façon dont je voulais développer ma gamme. Et puis on a décidé, bah, plutôt que de travailler chacun dans son coin, bah, d'unir nos forces. Donc du coup, moi, j'ai apporté chez Ori Games la marque Superlude. Donc je continue exactement à faire le même métier. Hein, donc c'est, voilà, je suis éditeur. Et donc du coup, j'ai fusionné. Voilà, en fait, je suis devenu associé.
Ouais, enfin, voilà. En termes de structure,
en termes de structure, légale, c'est pas très funky comme discours. C'est un peu dans le dur du juridique. Donc en gros, voilà. Donc je suis associé d'Ori Games maintenant. D'accord. Donc on est quatre associés dans une SCOP. C'est une société coopérative. Oui. Donc c'est un truc à la cool. Voilà. Et je continue à faire mon métier avec eux. Donc maintenant je travaille avec eux au quotidien et c'est top. Et
par exemple, Croix risque de revenir avec le label Superlude sur la couverture.
Alors non seulement il risque, mais il est déjà.
Voilà.
Oh là là. Oui. En fait, Ori Games avait quelques velléités d'édition sur, par exemple, des jeux comme Sabordage ou Alien Wars, qui étaient dans les cartons et qui, du fait de leur activité, qui leur prenait tout leur temps, en fait, l'activité au service d'autres éditeurs, ils n'avaient pas vraiment le temps d'éditer leur propre jeu. Et donc, du coup, moi, j'ai intégré dans mon catalogue Sabordage et Alien Wars, et donc ils sont sortis. Donc mon arrivée aussi a permis d'accélérer les choses et de sortir les jeux.
De focaliser finalement.
Mais bien sûr, donc j'ai repris le travail éditorial, voilà. Et donc du coup, ça a permis de les sortir sous la marque Superlude. Et le cas de Croix est un peu particulier parce que c'est un jeu qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a été créé par l'un de mes associés, Igor Polouchine. Et donc c'était tout naturellement que Croix allait revenir dans ma gamme. Et pour moi, c'est un grand bonheur parce qu'évidemment, Croix, c'est un des premiers jeux. Oui, c'est un jeu qui a une vingtaine d'années, et vu que je suis très très vieux, voilà.
Il y a plusieurs à y avoir.
Oui, voilà, donc vraiment, moi, ça a vraiment marqué mes premiers pas ludiques. Bon, j'ai pas joué quand j'étais petit, mais c'est le premier jeu que j'ai offert à mes petits cousins, mes petits neveux. Enfin, j'ai vraiment dispatché le jeu un peu partout. Et aujourd'hui, être l'éditeur de Croix, c'est un grand bonheur. Ouais.
J'imagine. On va revenir rapidement sur Cannes et sur le Festival international du jeu de Cannes. Comme tu l'as expliqué, en fait, bon, vous êtes encore petit. Tu le disais d'ailleurs à la remise du prix. Qu'est-ce que ça fait pour une petite maison d'édition de se voir remettre un précieux comme ça et d'être mis en avant finalement devant d'autres maisons d'édition qui sont plus grosses, plus anciennes et,
Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment mon précieux. C'est énormément d'émotions et je crois que ça s'est vu à la cérémonie parce qu'avec Frédéric Vuagna, on est deux grands sensibles. Et du coup, quand j'ai appris la nomination de Maître Renard, j'étais au bureau et déjà au bureau, j'ai failli chialer. Donc c'était assez costaud. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être si jamais il se passe, et si je vais fondre en larmes devant tout le monde, ça va être naze. Et puis en fait, non, avec Frédéric, on a suivi une thérapie et une pré-thérapie.
Et Gomelon?
Oui, surtout qu'en plus, pour lui, c'est son premier jeu.
Oui, exactement. Donc Fred, c'est son premier jeu édité. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il a fait confiance à une petite maison. Donc c'est vrai que le rapport entre petite maison, jeune éditeur et ce prix-là, le rapport entre les deux est vraiment magique. Parce que pour lui, il a fait le pari de me confier un jeu, alors qu'a priori, d'autres éditeurs plus importants étaient intéressés. Mais la proposition éditoriale que j'ai pu lui faire lui a plu. La passion que je mettais dans le projet lui a plu, donc il m'a confié le projet. Et pour moi, c'est vrai que ce n'est que mon troisième jeu édité en fait, puisqu'il est sorti l'année dernière. Donc c'est vrai qu'un troisième jeu édité, avoir l'As d'Or, c'est qu'un début. Hein. L'As d'Or, c'est pas un accomplissement. Bien c'est sûr. La reconnaissance d'un travail effectué, d'une passion, d'un investissement. Mais c'est avant tout le début d'une aventure pour ce jeu et, je l'espère, aussi une espèce de boost pour Superlude.
Alors, justement, quand tu parles du jeu qui est sorti, c'est quand même un peu la classe, je vais dire, parce que vous êtes arrivé l'année dernière à Cannes en présentant le jeu. Vous revenez l'année suivante en disant, enfin, peut-être même il y a eu la blague l'année dernière en disant on reviendra l'année prochaine prendre l'As d'Or. Est-ce que c'était le cas?
Non, parce que j'ai pas de.
Pas de prétention. J'ai
pas de prétention. On espère toujours que son jeu va être reconnu, que c'est le meilleur jeu du monde, on y croit à fond. Mais c'est vrai que sur Maître Renard, il se passe vraiment quelque chose quand on joue. Il y a des vraies sensations qui se déclarent. Donc, je trouvais en effet qu'il avait. Il méritait une nomination. Enfin, pas il méritait, mais c'était possible. Voilà.
D'accord.
Au moins la nomination. Mais je m'arrêtais là parce qu'il y a vraiment plein de bons jeux. Je m'arrêtais vraiment là. Mais c'est vrai que l'année dernière, je me suis dit, il est sorti tôt, en fait, parce qu'il est sorti quelques semaines après Cannes, en fait.
Ouais.
Il est en avant-première au festival l'année dernière. Et je me suis dit, il ne faut vraiment pas que le jeu sorte des scopes du jury, du public, des boutiques. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur. sur la présentation du jeu, sur la médiatisation, et puis on a fait tourner le jeu dans beaucoup d'associations, voilà. Donc on a fait vivre le jeu, et ça c'est hyper important, et du coup ben, les qualités du jeu sont restées visibles, et ce qui a abouti à ça, quoi.
Et du coup, maintenant voilà, c'est un jeu qui a quasi un an maintenant, est-ce que, enfin, j'imagine que la réponse est oui, mais l'As d'Or va le remettre en avant, va lui donner un second souffle, va peut-être avoir un réseau de distribution peut-être un peu plus large en termes de scope, est-ce que...
Oui, encore une fois, je suis un peu novice en la matière, donc j'espère que ça va porter un coup de projecteur sur ce jeu. Yellow fait un super travail de distribution sur ce jeu, il croit vraiment à fond au projet, et donc du coup on va rebondir, on va utiliser cette As d'Or pour encore augmenter le travail déjà effectué, et normalement, en effet, concrètement, les ventes doivent augmenter, et puis aussi le nombre de boutiques où le jeu sera implanté doit s'augmenter, parce qu'il y a encore aujourd'hui des boutiques qui ne connaissent pas Superlude, qui n'ont pas tous les jeux. Ouais, il y a trop de jeux qui sortent, et il y a vraiment des jeux extraordinaires qui sortent, donc je comprends aussi que les boutiques ne puissent pas prendre tous les jeux, mais le fait d'avoir l'As d'Or...
Ça permet de le mettre en avant plus facilement.
De mettre en avant Maître Renard, et puis aussi les autres jeux, parce qu'ils vont connaître Maître Renard, ils vont dire, ah, Superlude, on n'a pas leur jeu, tiens, ils font quoi, Lutèce, c'est sympa, voilà. Ouais, et évidemment. Voilà, il y a beaucoup d'effets induits, à la fois pour le jeu, à la fois pour les autres jeux et à la fois pour la société. Donc c'est super cool.
Très bien. Floette avait... Alors, la caution féminine de la Ligue avait plusieurs questions à te poser. Je vais laisser la parole.
Oui, donc comme tu le disais, la caractéristique quand même principale de ce jeu, c'est qu'il se joue sans la vue, ce qui n'est pas courant dans un jeu de société. Si j'ai bien compris, c'était quand même une volonté de l'auteur de lui donner ce côté un peu accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. C'est quelque chose qui fait partie vraiment du projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment finalement ça s'est construit?
Alors, dès le départ, en fait, Frédéric m'a parlé de cette intention, une intention éditoriale, une intention d'auteur, de faire un jeu pour ou avec les personnes non-voyantes. Et c'est à partir de cette idée, de ce postulat créatif, qu'il s'est dit, le dénominateur commun, c'est le sens du toucher. Donc je vais faire un jeu qui utilise cette mécanique principale. Et puis petit à petit, il a créé sa mécanique de jeu. Et donc c'est vraiment à l'origine du projet. Aujourd'hui, le jeu dépasse ce projet-là aussi, puisque c'est un jeu qui se joue évidemment très bien entre voyants, oui, même si on est un peu moins doué que les non-voyants, mais bon, personne n'est parfait. Qui se joue très bien entre enfants, adultes, et aussi entre adultes. Alors entre adultes, c'est un petit peu plus costaud, parce qu'on a des grosses paluches pleines de doigts et pleines de poils, enfin, sauf pour la caution féminine, qui a des mains fines et élégantes.
Merci.
Mais, voilà. Et du coup, c'est un peu costaud, et ça devient un jeu vraiment d'empoigne. Moi, j'hésite pas, ne jouez jamais avec moi, j'hésite pas à crocheter les petits doigts, à mettre tous les pions de mon côté. On joue qu'avec une main, donc faut être agile. Et puis parfois, les pions volent. C'est un peu comme un jungle speed, où faire attention aux bagues et pas se prendre un totem dans l'œil. Et ben là, il faut retirer les bagues parce que ça peut être dangereux. Donc c'est un jeu dangereux, Maître Renard. mais pour les petits, non, c'est très bien. Pour les petits, c'est très bien.
D'accord. Et du coup, donc effectivement, la déficience visuelle, c'est une classe entre guillemets d'origine de handicap. Ouais. Est-ce que par la suite, alors sans devenir l'éditeur des jeux accessibles, on n'en est pas là. En plus, le jeu en lui-même n'est pas directement complètement accessible tel qu'il est. En tout cas, il y a des choses qui ont été rapportées par certaines associations. Comme Accessi Jeux,
je sais, on se connaît bien.
Je pense que vous avez travaillé ensemble là-dessus.
Oui. Très tôt, d'ailleurs. On s'est rencontrés très tôt. Ils font un super boulot avec le jeu. Et ce qui, pour répondre à ta question, ce qui aussi leur plaît dans ce jeu, et c'est ce qui me plaît aussi, moi, en termes d'intention, que ce n'est pas un jeu conçu pour. C'est un jeu qui permet aux déficients visuels de participer à la vie de tous les jours et de jouer avec des gens, avec les autres, quoi. Non pas les gens normaux, mais avec les autres. Et il n'y a pas besoin de rajouter du braille, il n'y a pas besoin de customiser le jeu pour permettre de jouer. C'est un jeu de la société. De la société, c'est un jeu social et qui permet à tous les acteurs de la société de jouer au même jeu. Et c'est ça, je crois, qui, moi, me plaît et qui plaît aussi à Axi Jeux. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai pas vocation, en fait, à faire ça. C'est vraiment parce que le jeu m'a énormément plu, que l'intention m'a paru extrêmement louable, pertinente, intéressante. Mais non, j'ai pas vocation. Si un jour on me présente un jeu qui en effet peut répondre à ces critères-là, c'est avec plaisir que je l'éditerai à partir du moment où c'est un bon jeu. Voilà. Je n'édite que des... Enfin, j'essaye de n'éditer que des bons jeux.
Mais voilà. Pour notre plus grand plaisir. Mais
avec plaisir aussi.
Merci.
Est-ce que pour, Je vais revenir sur l'Asdor, mais même sur le jeu en lui-même. Est-ce qu'il y a une idée de peut-être mettre des extensions? On sait que c'est maintenant quelque chose qui est en place pour quasi tous les jeux, qui permet de relancer, donner un deuxième, troisième souffle au jeu et relancer un petit peu les ventes. Est-ce que pour Maître Renard, il y a des choses qui sont pensées dans ce sens?
Oui, assez tôt, en fait, on a pensé à, déjà dès la recherche des thèmes, on a réfléchi à plusieurs thèmes. Celui de Maître Renard était quand même le plus plébiscité, mais d'autres thèmes, notamment le thème de la maison hantée, où les enfants perdent la lampe torche et vont devoir attraper les fantômes avant que les fantômes ne les rattrapent. Mmh. Donc il y a possiblement une version maison hantée qui pourrait un jour voir le jour, mais on reste vraiment sur des idées là. Il n'y a rien de concret. Voilà. Après, sur vraiment Maître Renard en tant que tel, on peut tout à fait imaginer, et on est en train d'y réfléchir, à des petites extensions avec des animaux nouveaux, des cartes nouvelles pour un peu renouveler, parce que dans Maître Renard, il y a vraiment une courbe d'expérience. La première partie est un petit peu difficile parfois.
Floyd qui fait les gros yeux.
Et oui, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt, parce qu'on est plongé dans un autre univers de sensations, et on se dit, mais quand on regarde les pions, on dit, oh, c'est trop facile, oh, trop facile. Ouais. Et dès qu'on joue, on se dit, mais je suis un gros nul, en fait. Et à la deuxième partie, on sent vraiment une progression très rapide. Et au bout de 3-4 parties, on maîtrise un peu. Et d'ailleurs, dans les règles, c'est prévu, quand on a un peu d'expérience, on augmente le nombre de points pour gagner.
Pour faciliter.
Ou on peut donner des mini-gages, par exemple, interdire aux joueurs expérimentés de dire stop. Et c'est notamment ce qu'on fait avec les publics non-voyants. Moi, j'ai fait une partie vraiment magique où, déjà, on a interdit à la personne non-voyante de dire stop parce qu'elle elle trouvait les pièces beaucoup trop vite.
Forcément.
Donc les autres ne pouvaient pas jouer.
Floette en parlait en off tout à l'heure.
C'était vraiment extraordinaire. Et puis, du coup, les autres joueurs à sa table qui étaient ses amis lui ont dit non, t'es trop forte, on arrête. Déjà, tu vas mettre tes gants. Donc ils lui ont mis des gants en laine. Très bien, super. Et là, elle les a tous éclatés en 4 secondes. Ok, très bien. Bah, attends, là, il y a Jean-Michel qui a des gants de ski, tu vas mettre les gants de ski. Donc elle s'est parfaitement prêtée au jeu parce qu'elle a trop adoré l'événement et elle a mis ses gants de ski et elle les a battus.
Oui, bah voilà, ça s'est fait.
Et franchement, c'est des super pouvoirs, quoi. C'est voilà. Vraiment extraordinaire.
Tout est dit.
Oui, c'est vraiment ça. Donc du coup, oui, rajouter des nouvelles formes, des nouveaux animaux avec des nouvelles illustrations et peut-être des petits pions bonus, parce que dans le jeu, il y a des pions bonus qui font un peu varier les règles de temps en temps. Donc on a déjà des petites idées de nouveaux animaux qui pourraient rejoindre la ferme.
D'accord. Mmh. Golemond avait une question.
Oui, comme tu disais, c'est un jeu aussi qui fonctionne très très bien en adulte, hein, entre adultes, y compris parce que tu as quand même quelques, entre autres le serpent et le marteau qui quand même sont des trucs, surtout le serpent apporte un aspect fourberie absolue, oui, dans ce jeu. Et bon, moi je suis spécialiste, hein, voilà. je suis spécialiste des saloperies en game. Et du coup, est-ce que tu peux pas aussi l'imaginer en version party game adulte, par exemple, avec d'autres objets encore là, plus difficilement à trouver, etc.
Tu m'emmènes sur un terrain un petit peu scabreux là, quand même, parce que les jeux tactiles entre adultes, écoute.
C'est aussi ma spécialité.
Oui, voilà. Alors, je t'avouerai qu'évidemment, dans les petites blagounettes qu'on se fait entre éditeurs, de nombreuses personnes m'ont dit, tiens, on t'a pas vu à la soirée avec ton masque et ce genre de choses. Donc évidemment, une version adulte avec des masques en cuir et des clous pourrait évidemment tout à fait voir le jour. Non, là, je blague parce que c'est absolument pas... c'est pas faisable. Si, tout est faisable. Mais au-delà de la version un peu trash, une version Maître Renard un peu trash, on peut imaginer en effet une version avec un peu plus de stratégie. C'est-à-dire, dans Maître Renard tel qu'il est, il y a déjà des petites options stratégiques. Est-ce qu'on va plutôt prendre des pions bonus pour les retirer aux autres? Est-ce qu'on va prendre plutôt des pions de base? Est-ce que si on est en tête, est-ce que ça vaut le coup de prendre le serpent ou pas? Il y a quand même des petites réflexions stratégiques. On pourrait augmenter, optimiser et rajouter d'autres options. Pourquoi pas? Je ne suis pas totalement convaincu que le jeu demande une version adulte. Voilà. Il est déjà en soi jouable entre adultes. Donc,
finalement, est-ce que ça couperait pas finalement juste le public en deux alors qu'au final tout le monde peut y jouer actuellement?
Moi je vois ça vraiment comme un jeu auquel on va jouer familialement, en famille, et puis il y a un petit côté régressif aussi, le grand plaisir de voir des adultes, des grands barbus, avec des blousons de cuir et des tatouages, se mettre un masque de renard sur la tête et puis se moquer les uns des autres.
On retombe un peu dans le scabre, attention.
Non, oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, c'est intéressant de voir le décalage entre voilà, on entre dans un autre univers de sensations, on met le masque et on est vraiment... Il y a un petit côté jeu de rôle, évidemment. On met le masque et on se transforme en renard. Et n'importe qui peut se transformer en renard, voilà. On devient des kitsunés. Une version japonaise avec des kitsunés pourrait... Comme je suis très friand de culture japonaise et comme certains de mes autres jeux le montrent, on pourrait imaginer une version japonaise avec des kitsunés. Mais pourquoi pas.
Ketrus, t'as une question ?
Ouais, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la conception du jeu. Déjà, comment on teste un jeu pour enfants comme ça, surtout très tactile, très... Ouais. Très important. Et est-ce qu'il y a eu des versions avec des plus grosses pièces, un plus petit plateau, des plus grands plateaux, ce genre de choses ?
Oui, tout à fait. En fait, dans la première version que m'a présenté l'auteur, il avait une centaine de pions en bois. Donc déjà, sans pions en bois, on l'a tout de suite dit, ton jeu va coûter 60 euros au magasin, c'est pas possible. Et puis en fait, ça ajoutait rien au jeu. Donc on a tout de suite réduit le nombre de pièces. On a beaucoup travaillé sur la taille des pièces et la forme des pièces. Donc on a redessiné les pièces, puisqu'il avait des pièces en bois du marché. Donc on a vraiment redessiné les pièces pour qu'il y ait des trilogies de pions qui se ressemblent, qu'on ait des pions plus faciles, des pions plus simples. On a varié les épaisseurs aussi pour augmenter les confusions ou au contraire faciliter la prise de certaines pièces. Donc le fromage est énorme alors que le poisson est tout plat par exemple. Donc c'est les deux pièces les plus faciles, mais comme c'est les deux plus faciles, tout le monde les veut parce que c'est les plus faciles à attraper. Donc du coup, tout le monde se bat pour les avoir. Et après, la taille du plateau, j'ai fait plusieurs essais. J'ai dévalisé tous les marchands de plateaux, Ikea et autres, pour trouver des plateaux avec des formes, des tailles différentes. J'ai même à une époque pensé rajouter directement de la paille dans la boîte. Donc parfois, on fait des parties en rajoutant de la paille. Je coupe un peu de paille, je mets de la paille dans la boîte et c'est assez rigolo. Donc je ne crois pas que les consignes de sécurité permettaient d'apporter des bottes de paille ici. Donc oui, il y a beaucoup de travail. Et ce qui m'a le plus surpris dans le travail de conception et de test du jeu avant d'éditer, c'est qu'au tout départ, pour moi, c'était un jeu 5 ans et plus. Voilà, je me suis dit, ok, 5 ans et plus, un jeu simple, rigolo, on y joue tous ensemble. Et donc, je l'ai fait jouer à des enfants de 5 ans. Et je me suis vite aperçu, en fait, que les enfants de 5 ans, dans leur grande majorité, certains y arrivent, en fait, n'arrivaient pas à jouer. Et dans leur grande majorité, les enfants de 5 ans se précipitent pour avoir 3 pièces et ne cherchent pas à les reconnaître via le sens du toucher, prennent 3 pièces, disent stop, donc relève le masque et tout le monde relève le masque, donc ils font ça en 3 secondes et espèrent avoir les bonnes cartes en fait, avoir les bonnes pièces qui correspondent à la mission. Et si la mission c'est mouton, fromage, poisson, ils prennent leurs trois pions le plus vite, puis ils voient qu'il y a cheval, poule et oie, et puis ils sont tout déçus. Voilà. Et donc du coup, ça crée un effet un peu négatif sur le jeu parce qu'ils ne vivent pas une expérience intéressante. Et dès qu'ils arrivent à 6-7 ans, ils comprennent tout de suite ce qu'il faut faire. Et là, du coup, ça devient vraiment intéressant. Et donc voilà, je me suis un peu trompé sur l'âge du jeu. Et c'est vraiment les tests qui m'ont permis de m'orienter vers un public de 7 ans et plus.
Et pareil pour la conception, au niveau de la matière. Ça a été tout de suite le bois ou est-ce que vous avez pensé
tout,
à
tout de suite le bois. Ouais, tout de suite. Non, tout de suite le bois. Je voulais vraiment que le jeu... On est dans un univers un peu médiéval. Moi, j'adore le bois. On est nombreux à adorer le bois. Donc, je voulais vraiment des beaux objets. Je voulais des beaux objets colorés, agréables au toucher. Et le bois a un bon rapport densité-poids, qui n'est pas le même sur le plastique. Et puis sur le plastique, voilà, on est dans une ferme, il y a un maître renard, il y a des fermières, il y a des poules. Enfin, je ne vois vraiment pas ce que le plastique avait à faire là-dedans. Donc du coup, le bois, oui, on ne s'est même pas trop posé la question. En fait. Le prototype était en plastique. Le prototype a été imprimé avec une imprimante 3D. Donc c'est le fameux The Blatt qui travaille beaucoup pour de nombreux éditeurs aujourd'hui, qui a fait le premier prototype. Donc on a dessiné les formes et puis il les a imprimées. On a commencé à jouer avec ça. Et puis l'objectif était évidemment de faire des pions en bois, hein, bien sûr. On avait même imaginé varier les textures des pions. Mais on entre dans une autre catégorie de jeux tactiles. Et en fait, ça n'apportait pas grand-chose au jeu. Donc on est resté sur du pion classique.
Et le jeu qui avait essayé cette expérience, qui était Dr. Shark,
oui,
a été un fiasco. Ils ont eu des gros problèmes d'édition.
Alors, je connais pas trop. Enfin, oui, je sais que Dr. Shark avait, sur ce principe-là, pas eu une réussite extraordinaire. Après, je connais pas les tenants, les aboutissants. Mais oui, c'était. On m'en a parlé. On m'a dit, tu as un jeu tactile, fais attention, Dr. Shark. Je ne sais que dire. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que c'était peut-être un champ. Ce que je sais, c'est qu'en jeu tactile, il y avait peu de jeux tactiles où l'action était simultanée. Beaucoup de jeux tactiles où on va chercher dans un sac individuellement. Et là, ce qui m'intéressait, c'était la confrontation et le fait que, voilà, que c'est une foire d'empoigne et puis ça met de la paille et des animaux partout. Voilà.
Très bonne intervention pour le coup.
Merci.
C'est quoi ?
Merci beaucoup.
D'autres questions ? D'autres... Non, c'est bon ? Bah écoutez, merci beaucoup de ta venue, de ton temps pour le coup, qui était très intéressant.
Grand plaisir.
J'imagine que tu n'as pas eu le temps toi non plus de faire le tour du salon, trop de travail sur le stand.
En fait, cette année, quand je dis que je suis un petit éditeur aujourd'hui, j'ai pris une petite ampleur. Donc cette année, pour la première fois, j'ai des responsables de stand. Donc, j'ai deux stands et j'ai Louise et Delphine qui s'occupent de mes deux stands, qui ont des animatrices et des animateurs. Elles gèrent tout ça très très bien. Et donc du coup, moi, normalement, j'ai un peu plus de temps. pour venir parler aux médias, voir des auteurs. Et voilà. Mais je cours quand même dans tous les sens.
Mais justement, du coup, ça ne te donne pas plus de temps parce que tu dois rencontrer des auteurs qui peut-être te présentent des projets.
Mais c'est exactement ça.
La question qu'il y avait derrière, c'est est-ce que tu as eu le temps de voir le festival en lui-même et tester des choses?
Et la réponse est non. Puisque donc je m'attendais en effet à faire ça, aller voir des confrères avec qui on s'entend bien, voir leurs jeux, discuter, socialiser, prendre du plaisir à jouer à des jeux magnifiques. Et au final, beaucoup de sollicitations. Alors c'est des problèmes de riches parce que c'est vraiment génial. Mais depuis que j'ai eu l'Asdor, le téléphone sonne toutes les 5-10 minutes. Des demandes. J'avais déjà mon planning de rendez-vous avec des auteurs qui était bouclé, donc j'avais déjà fait ça. Donc toutes les heures, j'ai 45 minutes de rendez-vous toutes les heures sur 3 jours. Et malgré ça, il y a énormément d'autres sollicitations auxquelles je réponds avec plaisir, mais qui du coup me réentraînent dans cette espèce de d'effervescence et de frénésie. Mais j'adore ça, donc tout va bien.
Ok, question, Florette.
On remercie d'ailleurs les auteurs à qui on a volé le rendez-vous.
Oui,
j'arrive.
Merci, désolé
Eric,
pour eux.
Patrick,
merci.
J'arrive.
Ok, écoute, merci beaucoup encore une fois, ton intervention très très intéressante.
Je rougis, ça ne se voit pas, mais attention à mon côté sensible, je ne pleurerai pas au micro.
On va clôturer ça. Merci à nous tous. Puis on va faire un dernier tour de table ensemble, faire le point sur tout ce petit festival. Merci à toi.
Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Merci, au revoir.
On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. On a eu nos trois excellents invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans l'émission et nous parler un petit peu de leurs ressentis après avoir reçu leurs As d'or. Je suis un petit peu ému parce que je ne m'attendais pas à avoir des personnalités aussi intéressantes. On va faire un petit point rapide entre nous sur la fin ce qu'on a vu encore du festival, parce qu'on n'est pas loin de la fin du festival. Gomelon, pour revenir sur les intervenants, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu trouvais ça intéressant? Vas-y.
Non, c'est juste pour dire que de façon, cette sélection est largement méritée. Enfin, ce palmarès est largement mérité. Il faut bien dire, ce sont trois d'excellents jeux qui ont chacun changé un peu leur show. Enfin, ont fait leur trou et ont trouvé leur public aussi. Hein, il faut le dire. C'est trois jeux vraiment excellents. En plus, je vais pas revenir dessus. Moi, je tiens à rappeler que Out Mysterium, dont j'avais déjà parlé une première fois, Maître Renard, c'est vraiment vraiment un jeu qu'il faut découvrir parce que il se joue à tous les âges, en famille, comme entre enfants, comme entre adultes.
Toi, t'es d'accord avec les récompenses? T'aurais voulu voir un autre jeu éventuellement récompensé ou t'étais d'accord avec ce trio finalement?
Bon, tu sais, après c'est difficile à dire. Enfin, moi,
dans ton fort intérieur, dans mon fort intérieur,
moi, le Seven Wonders Duel, pour moi, était un des grands grands jeux experts de l'année. Hein,
là, je suis clairement d'accord avec toi.
Voilà. Maintenant, Pandémie Legacy le mérite tout autant. C'est peut-être la surprise. C'est pas une déception, ça a été la surprise lors de la remise des prix. Moi, je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que Seven Wonders Duel, ça m'aurait fait plaisir qu'un jeu à deux.
Gagne
en même temps. Là, on est sur un coop. Alors je suis pas spécialiste des coops, mais c'est aussi intéressant qu'un jeu coop gagne aussi.
Je me demande finalement si le jury a pas été visionnaire et qu'ils ont été capables, avec Pandemic Legacy, de récompenser un jeu dont on sera capable de comprendre toute l'ampleur et saisir toute la saveur quand plusieurs saisons seront sorties, qu'on se dira mais putain oui, ils avaient raison, parce que au bout de deux ou trois saisons, le principe est super bien. Et ça le mérite.
Kétrus.
Ouais, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que quand même dans les nominés, quelles que soient les catégories, ils récompensent quand même des nouveaux systèmes, des choses un peu nouvelles, tu vois, comme Pandemic ou Time Stories, quoi, voire Mysterium d'ailleurs, parce que.
Oui, complètement. Ouais.
Et ça, c'est vachement réjouissant. Quoi.
En fait, je pense que Seven Wonders Duel avait un petit désavantage, c'est le fait qu'il soit jouable uniquement à deux. Et du coup, comme ils cherchent en général à récompenser des jeux qui sont fédérateurs, qui ressemblent vraiment du monde autour du jeu, ça limite un peu le côté fédérateur de pouvoir jouer uniquement à deux, alors que, à contrario, Pandémique, si vous voulez dire comme ça, est un peu plus fédérateur, parce que voilà, le côté coop, le côté on réunit des gens autour de la table qui doivent vraiment se creuser la tête pour faire quelque chose. Oui, Yérim Melo ?
Seven Wonder Duel est un très bon jeu, mais il n'a rien de novateur.
Alors c'est vrai qu'il n'a rien de novateur. Maintenant, il a réussi à remettre une mécanique en place qui était usé, parce que Seven Wonders est sorti, a été usé et épuisé par tous les joueurs et par nous tous autour de cet avant plus, mais il a quand même, enfin, quand on l'a tous repris en main pour retester le duel, on était quand même bien content de dire putain, c'est quand même presque meilleur jeu que celui d'origine.
Ouais, mais alors, je vais mettre un pavé dans la mare, donc dans ce cas-là, c'est l'as d'or du jeu expert du système Legacy et pas de Pandemic, qui lui aussi a été usé et réusé.
Oui, oui, non, mais, c'était pas une critique quand je dis ça, c'est justement, il a réussi à faire un truc en plus. Et à relancer en fait un système. Donc oui, finalement, là, on met en avant le côté legacy sur Pandemic.
C'est un tout.
Personne dit le contraire au final. Oui.
Ouais. Il faut pas essayer de catégoriser un peu les as d'or ou ce genre de choses. Et il faut pas dire faut que ce soit des jeux novateurs ou que ce soit des jeux tu vois à oui, plusieurs oui. ou à deux.
En fait, je dis ça parce que Monsieur Fall l'année dernière, ouais. m'avait plus ou moins dit en disant voilà, il cherche des jeux qui fédèrent un peu le jeu autour d'eux.
Ouais. Et on avait ce débat là avec Gomelon à la soirée des remises sur aussi les éditeurs quoi. Est-ce que ça va être toujours les mêmes éditeurs qui ont les prix tout ça.
Moi, je pense que non. Effectivement.
Ouais, voilà, mais ça doit être ouvert à tout le monde et à tout type de jeu quoi.
Non, Gomelon, tu l'as
oui, pardon, c'était juste aussi pour un peu confirmer l'esprit que disait Oise sur le fait que peut-être que Legacy n'est pas encore assez, on voit pas encore l'impact total de Legacy sur la première édition et que peut-être qu'on aura encore une autre image de lui, de ce jeu, quand il va se développer avec les prochaines saisons. Effectivement, y a une année où le As d'Or, ça a été Skull qui a été remis alors que le jeu n'était pas sorti. Tout le jury l'avait testé. Et ils l'ont remis au moment où il sortait, et ça avait fait scandale à l'époque. Mais effectivement, Skull a été un jeu qui a fait son trou et qui a eu un impact important. Et le jury a effectivement a reconnu cet impact avant qu'il ait lieu.
D'accord. Donc au final, on peut parier que Legacy va avoir ce nouvel impact, et on en parlait clairement donc pendant l'interview. Ça va être quelque chose qui va venir en avant et qui va relever un petit peu le jeu de plateau sur un plan jeu de rôle en fait.
Et pour le coup, je sais pas si ce sera le cas ou pas, mais moi, un jeu comme Pandemic Legacy avec des saisons et le packaging qu'il a, clairement. Je le vois vraiment vendu en GSS également quoi. C'est vraiment clairement. Un nouveau créneau qui peut-être serait susceptible de s'ouvrir à eux.
Donc oui, effectivement, ouais. Autre chose, d'autres choses à dire, d'autres points à soulever? Ou est-ce qu'on va juste profiter du festival et...
On a encore plein de jeux à tester.
Voilà, on va tester. Et on fera un retour, mais dans un mois, ça va être long. Quel dommage. Pas grave. On va essayer de trouver d'autres auteurs, faire une petite émission spéciale. Puis voilà, c'est déjà tout. Merci à vous tous. Merci à votre temps. Oui, Kiltrus, vous voulez rajouter
quelque
chose ?
Ouais, juste un petit coup de cœur que j'ai eu la première nuit. C'est un prototype qui s'appelle Omega. On l'a diffusé sur notre page Facebook. Vous pouvez aller voir. Et ils ont aussi une page Facebook Omega The Ritual, je crois.
Ouais.
Voilà, c'est totalement gratuit et subjectif. Mais comme j'ai vraiment apprécié leur jeu et que je pense qu'ils ne sont pas édités, ils n'ont pas encore d'éditeur. Donc voilà, si vous pouvez les soutenir, aller les voir, peut-être vous renseigner sur le jeu, ça leur donnera un petit coup de pouce.
Ok, très bien. Yermielo, si il y a quelque chose à rajouter, tant qu'il bouge le micro vers sa bouche, oui, allez, vas-y.
Petit coup de cœur à tous les éditeurs, tous les animateurs, ils sont disponibles, on peut discuter. Quand on parlait d'Omega, moi pendant ce temps-là, j'étais en train de tester un jeu avec l'éditeur Illopelli, et on a pris du temps pour parler de Kickstarter, de beaucoup de choses. Ils veulent vraiment, ils ont une passion, ils veulent vraiment la partager.
Ouais, ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans le côté jeu de société, je vais le dire comme ça, c'est vraiment, tu as vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de passion, et tu as l'impression que tout le monde est vraiment... super ouvert et super pote, même si tu ne le connais pas.
Même des grosses personnalités, on a eu Croc qui nous a expliqué un jeu, on a pu discuter avec lui.
L'excellent Via Nebula, d'ailleurs, qui sort et qui est vraiment très très bien.
On ne me demande pas mon avis, mais moi aussi j'ai un coup de cœur, messieurs dames, il vient de sortir et c'est Via Nebula, c'est édité chez Space Cowboys. Le nom de l'auteur, Gomelon, va nous le sortir parce que je... Si, c'est l'américain.
Martin Wallace.
Il est allemand.
Pas américain du tout, il est allemand.
Bravo, bravo. C'est okay. Un super jeu.
Bon, voilà, c'est bien, on peut clôturer, on va rejouer. Non, j'ai envie de jouer. Moi. Bon, merci à tous, merci de votre temps, merci de votre préparation, parce que là, je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui étaient présents sur le festival depuis jeudi, parce que moi, je suis arrivé à la bourre, et du coup, ils ont préparé ça, mais comme des dieux, pour qu'on ait une bonne émission à vous faire écouter. Donc, merci Gomelon, merci Kétrus, merci Oise, merci Riamelo, merci d'avoir fait tout ça. Merci Flouette, pour ton intervention aussi, ta caution féminine. Je rappelle que la Ligue des Joueurs Ordinaires est une émission produite par Radio Kawa. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Kawa / le vrac / la Ligue. Retrouvez-nous sur Twitter, Ligue des Joueurs, @Ligue des Joueurs, et sur Facebook, administré parfaitement par Flouette. Je le dis à chaque fois. Et je. Non, c'est par Kétrus, c'est ça que tu es en train de me dire ? Ah, vous êtes deux, mais plusieurs. Je pense qu'à toi.
Et s'arrêter de pleuvoir, tu vas pouvoir aller faire du skate.
Non, il pleut trop. Non, il y a encore trop de trucs. Et puis voilà, merci à tous. On se retrouve dans un mois. L'émission sera diffusée la semaine prochaine au moment où on enregistre. Et c'est parfait. On vous aime. Jouez bien, lancez des dés, jouez aux cartes. Et voilà, ciao, ciao, ciao.
Bye. Salut à tous.
Hey, c'est quand même notre star nationale qui est triste.
C'était quand même les premiers
arrivés
à monter les marches. Elles étaient vierges quand on est arrivé.
Eh bien non, elles sont plus vierges. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai peur.
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Mega Man,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa.
Philippe, je sais où tu te caches.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh hey, dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche. Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez, Marcel, au studio.
Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois.
Sur Radio Kawa.